Comme vous l'avez dit, l'une des actions significatives de la gestion des conséquences du génocide des Tutsis a été la conduite de ce processus Gacaca. Ma communication va traiter de ce processus qui avait pour objectif à la fois d'offrir rapidement la justice aux victimes et aux personnes emprisonnées et d'établir la responsabilité individuelle des millions de suspects. Il sera question de présenter quelques attitudes des rescapés qui montrent qu'ils ont vécu intensément ce processus en passant par des moments d'inquiétude, d'engagement, de refus, d'acceptation, etc. Quel a été le contexte de l'émergence de ces juridictions ? Avant le génocide des Tutsis, le droit interne rwandais était muet par rapport aux incriminations et peines pour ce qui concerne le génocide. La loi organique du 30 août 1996 avait pour objectif de combler cette lacune, mais malheureusement, son application s'est heurtée à de nombreuses difficultés, dont la lenteur des procès, parce qu'en décembre 1998, seuls 1274 jugements prononcés, alors qu'il y avait plus de 120 000 cas. Il y avait aussi le manque de formation appropriée des juges, le problème de la pleine jouissance de droits de défense. Il y avait la difficulté de catégoriser les prévenus, l'impossibilité d'évaluer les effets de la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, et le problème de la pleine jouissance de l'établissement des preuves ou de la fixation des dommages et intérêts. Il y avait beaucoup de problèmes. La loi en question n'avait pas vraiment répondu aux préoccupations des victimes qui attendaient la reconnaissance de leur statut et la réparation des dommages subis. Pour certains, il était très difficile même de témoigner en justice. Par exemple, les femmes violées pendant le génocide avaient du mal à raconter ce qui leur était arrivé de peur d'être victimisées une deuxième fois. L'idée de Gacaca a émergé dans ce contexte. Il fallait trouver une forme de justice capable de réduire le nombre de dossiers pénaux afin de rétablir le tissu social rwandais. Il était nécessaire de permettre aux Rwandais de parler et de faire éclater la vérité. Les propositions s'orientèrent sur la démarche traditionnelle, Gacaca, qui servait à imposer l'ordre et à résoudre les litiges pour aboutir finalement au rétablissement de l'harmonie sociale. Mais cette pratique consistait en une justice participative. Cette forme a été réaménagée pour l'adapter à la spécificité du contentieux qui allait être traité. Diverses lois se sont succédées pour clarifier les étapes du déroulement des juridictions Gacaca, le rôle des différents acteurs, la catégorisation de personnes accusées, les peines qui pouvaient être prononcées, etc. Je voudrais maintenant dire un mot sur l'accueil de cette idée par les organisations des rescapés, dont Ibuka, Avega et les autres. Au lendemain du génocide, les rescapés étaient dans une situation d'attente d'une justice qui allait traiter les dossiers des génocidaires. Ils se demandaient comment ils allaient continuer à vivre à côté des présumés coupables. Ils attendaient impatiemment la reconnaissance de leur statut de victime et la réparation des dommages qui avaient été subis. Les procès qui ont démarré en décembre 1996, juste après l'adoption de la loi organique du 30 août 1996 sur le génocide, se sont caractérisés par une lenteur incroyable, comme je l'avais dit. Les procédures classiques étaient lourdes, les témoignages étaient difficiles à recueillir et ainsi plusieurs auteurs de crimes pouvaient être acquittés faute de preuves. Les juridictions Gacaca ont été proposées, entre autres, pour corriger cette situation. Comme elles se sont inspirées de la forme traditionnelle de résolution des conflits mineurs, Les rescapés se demandaient si la proposition allait être efficace, si Gacaca pouvait avoir la vocation à juger les crimes de génocide. Les rescapés s'imaginaient, avec une grande angoisse, les séances Gacaca où ils allaient être confrontés avec les génocidaires. Ils ne comprenaient pas pourquoi les procédures d'aveu de culpabilité pouvaient donner droit à des réductions importantes de peine. Pour eux, c'était une dilution pure et simple de la gravité des crimes qui avaient été commis. Les rescapés sentaient que le dispositif Gacaca, qui allait être conduit essentiellement par les membres de la communauté locale, en majorité faisant partie des familles des présumés coupables, n'allait pas aboutir au résultat escompté. Il faisait l'hypothèse que beaucoup de juges, qu'on a appelés Inyangamugayo, intègres, soient tentés de passer plus de temps à disculper leurs proches qu'à traiter objectivement les cas qui leur étaient soumis. Les rescapés se posaient aussi des questions sur la compétence de ces juges qui n'avaient pas nécessairement de formation juridique. Comme il était demandé à tout le monde de participer aux séances Gacaca, surtout aux endroits où on était le plus concerné, il y avait une grande peur chez les rescapés de pouvoir se retrouver là où ils étaient pendant le génocide. Ils pensaient en effet qu'ils allaient être persécutés parce que leur présence allait accuser les tueurs. Tout ce questionnement a poussé les membres de l'association Ibuka à faire une retraite d'une semaine au centre de formation des cadres de Murambi, c'est tout près de Gitarama, en vue d'étudier dans tous ses angles l'impact que Gacaca pouvait avoir sur les droits et les intérêts des rescapés. À l'issue de cette retraite, pendant laquelle il y a eu des discussions très houleuses, une décision fut prise, celle de soutenir sans embâge le processus Gacaca pour essentiellement les raisons suivantes. La première raison était que Gacaca allait être une occasion d'obtenir des informations sur les endroits où ont été jetées les victimes du génocide pour permettre aux rescapés de les ensevelir dans la dignité. La deuxième raison qui a poussé les membres de l'association Ibuka à s'engager à soutenir Gacaca était que ce processus allait être un moyen de retrouver l'unité séculaire des Rwandais, une condition qui allait garantir des activités de prévention de non-répétition du génocide. Cette décision d'apporter un soutien à la formule Gacaca a poussé l'association à développer un service juridique, à développer un service psychologique pour s'occuper des rescapés qui allaient être confrontés à ce processus qui était apparemment difficile à vivre. D'après ce que nous avons pu observer, les rescapés sont passés de la réticence, en tout cas, à l'expression des attitudes positives par rapport à ce processus Gacaca. Pour illustrer cette évolution des attitudes face au processus Gacaca, je voudrais utiliser les faits que j'ai observés au cours d'une séance Gacaca en 2008 à Butare. Pendant que Gacaca était en pleine activité, une religieuse fut invitée à donner des informations et sa congrégation, qui auparavant s'était opposée à ce qu'elle assistât aux séances Gacaca, accepta qu'elle répondit à l'invitation. La religieuse arriva dans la salle où se tenait la séance Gacaca, la grande salle du bâtiment Mbirabiombi, que certains parmi vous connaissent, la salle de Butare, qui était remplie. À chaque question du président de la séance concernant l'endroit où la religieuse se trouvait, est-ce qu'elle avait vu lors du génocide, la religieuse riait jusqu'à ce que l'assistance proteste à haute voix contre cette attitude, certains même murmurant qu'elle était une inerame. Le président de la séance dut intervenir pour appeler le calme et pria la religieuse de regagner sa place dans la salle. Quelques instants après, des cris aigus se firent entendre dans la salle. C'était la religieuse. J'étais alors enseignant de psychologie à l'Université nationale du Rwanda. J'ai en ce moment remarqué quelques-uns de mes étudiants en psychologie clinique, et avec eux, après avoir demandé au président de la séance l'autorisation d'intervenir, nous avons raccompagné la religieuse à son couvent. Ses consœurs, qui entre-temps avaient appris ce qui s'était passé, nous conduisirent à leur chapelle où elles commencèrent à prier. Beaucoup d'Ave Maria, etc. Nous leur expliquâmes en vain que la religieuse avait besoin de calme et contre leur gré, nous la conduisîmes dans une chambre calme. Je restais avec elle, avec un de mes étudiants, pendant que les autres étudiants restaient dans la chapelle, essayant d'expliquer aux sœurs que nous agissions pour le rétablissement de leur consœur, qui pour cela avait besoin de plus de calme que d'autre chose, que de prière. Quelques instants après, la religieuse récupéra, puis nous dit « Je vais maintenant vous raconter ce qui m'est arrivé pendant le génocide. » Elle nous raconta aussi les pressions qu'elle avait d'abord subies avant d'être invitée à témoigner de la part de ses consœurs, et nous expliqua pourquoi elle riait aussi en guise de réponse à la question du président de la séance « Qu'as-tu vu tel jour ?» Elle se souvint que c'est à ce jour que toute sa famille a été massacrée à Tiangougou. C'est en se rappelant tout cela qu'elle répondit par un rire comme pour se protéger. « Par chance, continua-t-elle, le président du tribunal me pria d'aller m'asseoir dans la salle. Arrivé là, j'ai continué à me rappeler ce que j'avais vu et en entendant certains dire que j'étais inéramé, alors j'ai crié et pleuré. » Quelques semaines après, la religieuse s'est sentie un peu libérée et elle allait régulièrement assister aux séances Gachacha, même à Tiangougou chez elle. Elle a pu par la suite inhumer les corps des membres de sa famille et accorder à quelques personnes le pardon. Comme on peut le voir, ce cas illustre entre autres les éléments suivants. La pression de certaines organisations d'appartenance, comme les congrégations religieuses, qui s'est exercée sur les rescapés, les poussant à développer la réticence face au processus Gachacha. Il y a aussi les difficultés des rescapés à pouvoir témoigner. Le génocide est un événement traumatisant par excellence. Ceci amène le rescapé à ne pas en parler. La religieuse a préféré s'exprimer par le rire, peut-être pour camoufler sa souffrance. Ceci rejoint l'affirmation de Litipan, qui note que quand on a traversé un génocide, on a toujours du mal à en parler. Je ne sais pas s'il y a des phrases ou des mots qui peuvent qualifier et rendre compte de la violence d'un génocide. C'est toujours une violence inouïe, donc les gens ont du mal à en parler. Au lendemain du génocide, tout le monde pense d'abord à reconstruire sa vie. Là, je citais Rétipane. L'exercice Gachacha ne pouvait pas se passer du rappel d'événements douloureux endurés pendant le génocide. Il est clair qu'il devait susciter de fortes émotions chez les rescapés qui étaient sollicités à y participer. Cette réalité a poussé d'ailleurs certains rescapés à ne jamais participer aux séances Gachacha. Les réalités que Gachacha a mises à la surface avaient un potentiel traumatogène important, surtout chez les rescapés. En effet, les accusés détaillaient les horreurs commises pendant le génocide et les rescapés devaient faire des efforts extraordinaires pour ne pas crier. Des fois, un témoin rescapé se trouvait seul face à des accusés, entouré de leurs proches. Il était parfois ridiculisé et sa parole déniée. Ainsi, une femme est violée. S'est entendu rétorquer par un accusé, Comment sais-tu que c'est moi qui y ai tué ton fils? Que pouvais-tu voir avec tous les hommes qui t'ont passé dessus? » Là, je cite un travail qui a été fait par Ibuka, en collaboration avec Médecins du Monde et Ibuka France et Ibuka Rwanda. Ceux qui ont collaboré à ce projet, certains sont ici, Marie-Odile, Dr Nanson. Il faut dire que cette femme ne voulait pas que l'Assemblée sache qu'elle avait été violée. La honte, l'humiliation, le sentiment de solitude ont souvent caractérisé les rescapés pendant le processus Gachacha. C'est ce qui a poussé certains d'entre eux à bouder simplement le processus. Même si Gachacha a permis à la vérité d'émerger, il a également ouvert les cicatrices. Ceci a constitué l'argument principal du développement de ce projet où Ibuka France, Ibuka Rwanda et Médecins du Monde ont essayé de mettre en place des groupes thérapeutiques pour soutenir d'un geste, d'une parole, les rescapés qui participaient à ce processus. Nous avons observé aussi des stratégies de dissimulation des preuves du génocide pendant les séances Gachacha. Les rescapés ont été profondément choqués par le fait que certains Rwandais ont été silencieux, n'ont pas voulu dire ce qu'ils ont fait ou vu, ont refusé de témoigner devant les juridictions Gachacha, n'ont pas donné des informations sur les lieux, par exemple les fosses où sont ensevelis les corps des leurs. En 2008, l'Institut de recherche et de dialogue pour la paix a d'ailleurs observé les phénomènes suivants. Kuguru Musozi, qui veut dire corrompre les habitants de toute une colline. Un coupable de génocide qui a déjà avoué son crime, a accepté de porter tous les autres. Il a accepté de porter tous les autres crimes commis au même endroit, se refusant de dénoncer les complices et co-auteurs. Ces derniers acceptaient à leur tour de prendre en charge sa famille pendant qu'il était en prison ou vaquait aux travaux d'intérêt général, les tiges. Nous avons observé aussi, ou ce centre a observé aussi, un autre phénomène, le tchétchéka, ça veut dire tais-toi, ou bazivamo, ça veut dire à peu près ils se trahissent. Ce sont les consignes que les parents et proches des génocidaires se donnaient pour ne pas faire des dénonciations lors des procès Gachacha. Il y avait aussi la conspiration. Les cas les plus fréquents étaient ceux des femmes Hutus mariées à des Tutsis victimes de génocide qui dénonçaient les tueurs. Et dans ces cas, les autres femmes Hutus se coalisaient et retournaient l'accusation contre les témoins indiquant qu'elles ont délibérément tué leur mari ou leurs enfants. Tous ces faits constituent des stratégies de négationnisme et le dispositif Gachacha les a permis de se déployer. Ils ont nourri d'autres actes comme la déstabilisation, l'intimidation et même l'élimination physique. Les rescapés ou les témoins oculaires ont été menacés de mort ou même tués. Les formes de menaces étaient diverses, injuriés, harcelés, lancer des pierres sur les toits des maisons, toquer de manière intempestive sur les portes pendant la nuit, empoisonner, brûler les maisons, voler le bétail ou d'autres biens et même diffuser des tracts. Avec le démarrage des juridictions Gachacha en 2002 et la libération massive des détenus présumés coupables de génocide en décembre 2003 et en août 2005, le nombre de personnes rescapées, tuées, a fortement augmenté. Mais je voudrais noter aussi qu'avec ces juridictions Gachacha, il y a eu quand même accès aux informations. Nous avons observé aussi un certain processus de demande de pardon. Ce processus a été quand même déclenchée. Le travail du deuil et de reconstruction psychosociale a été aussi facilité. De façon remarquable, nous pouvons dire que les juridictions Gacaca ont permis aux rescapés d'avoir des informations qui leur ont permis de localiser les corps des leurs. Évidemment, toutes les informations n'ont pas été données et il serait d'ailleurs impossible que ce soit ainsi. Les informations recueillies pendant les procès Gacaca, même si parfois elles étaient incomplètes, ont facilité quand même la reconstitution des événements et l'éclatement de la vérité à certains endroits. Cet accès aux informations a sensiblement apaisé les rescapés, qui ont d'ailleurs accordé le pardon à ceux qui l'ont demandé avec sincérité. Cet apaisement peut être considéré comme un élément majeur ayant ouvert la voie à l'amélioration des activités de commémoration. Au fur et à mesure que Gacaca a progressé, l'on a constaté d'ailleurs de plus en plus de participation aux cérémonies de commémoration. Les liens sociaux se sont peu à peu renoués, mais disons que quand même le chemin de la reconstruction psychosociale reste long à parcourir. De toute façon, le Rwanda doit renaître. Je pense que les rescapés, d'ailleurs beaucoup de Rwandais, sont fortement motivés pour cela. Il semble qu'ils soient engagés dans un processus de dépassement et les juridictions Gacaca ont facilité cette aventure. Le dépassement constitue, comme on le sait, un geste thérapeutique, mais comme le souligne Paul Watzlawick, un tel geste demande un grand prix et peut paraître illogique. À mon avis, il y a des raisons qui soutiennent l'idée que les Rwandais puissent être motivés pour le dépassement. Celui-ci peut être compris comme une pensée et une action pour que 94 ne se répète pas un jour. Les actions réalisées par les Rwandais aujourd'hui montrent qu'ils ne veulent pas être figés dans le désespoir. La situation de transition psychosociale donne une excellente occasion de dépassement, dans ce sens qu'elle donne aux Rwandais la possibilité ouverte de recréer. Quel privilège que de participer à la mobilisation d'énergie pour la renaissance. Ceci explique-t-il quand même pourquoi les rescapés se sont décidés de soutenir Gacaca et d'accepter ses résultats, même si le processus les a sensiblement éprouvés. Je voudrais terminer par cette question. Merci.